Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Bonsoir aux auditrices, aux auditeurs de Principe Actif. Donc c'est le groupe d'Amnesty International Évreux pour notre dernière émission du mois de novembre, puisqu'on est le 28, une heure consacrée à la défense des droits humains, aux informations par rapport à différents aspects d'actualité par rapport à ces questions.
Manifestations, travail, voilà. On va lui donner des noms comme ça, voilà. Des mots.
Voilà, donc pas mal d'informations par rapport à tout ça, mais on va pas vous en dire trop, le suspense, on va faire durer pendant toute l'émission pour que vous restiez avec nous jusqu'à la fin. Voilà, pour commencer l'émission, autour du micro, il y a Edith.
Bonsoir.
Il y a Renan, que vous avez déjà entendu.
Bonsoir.
Et puis il y a moi. Je m'appelle moi.
Moi, c'est Didier. Alors Claire Lise, elle devait venir avec nous, puis elle a plein de boulot. Alors on lui fait un gros bisou.
Voilà, elle pourra pas être avec nous, mais on y pense. Voilà, donc à bientôt Claire Lise. Et puis, pour commencer, une petite réflexion par rapport à un sujet sur lequel qui va vous être abordé juste après, qui est ce qui se passe en Libye. Vous n'êtes pas sans avoir entendu que la chaîne de télévision CNN a fait un reportage il n'y a pas longtemps sur la vente d'esclaves en Libye. Eh oui. Et donc, vous n'êtes pas sans savoir ça. Et donc, pour commencer, on va vous en parler. Et moi, ça me fait penser à une chose, pour commencer l'émission, c'est que il serait bien que les États signataires des différentes conventions de respect des droits humains, que ce soit la Déclaration universelle de 1948 ou les différents textes de droits économiques et sociaux, on va pas tous les citer, mais il y en a quand même beaucoup, que la majorité des États, voire tous, ont signé. Ce serait bien qu'enfin, ces gens-là qui sont les responsables politiques dont on nous parle tout le temps, ce serait bien qu'ils respectent leur signature et qu'ils ne prennent pas des décisions qui vont à l'encontre des engagements qu'ils ont pris. Et malheureusement, effectivement, encore une fois, ce qui se passe en Libye, c'est la preuve qu'il y a le discours qu'on nous fait entendre et il y a la réalité des faits. Et encore une fois, ça ne colle pas. Et le problème, c'est que la réalité des faits, quand ça ne colle pas et que ça concerne effectivement la vente d'esclaves, on répète
De personnes.
Oui, voilà, de personnes qui sont traitées comme des esclaves, voilà. Effectivement, en Libye. On sait bien que l'esclavage n'a pas vraiment complètement disparu. Enfin, ce qui se passe en Libye est particulièrement honteux. Et c'est une conséquence, on va vous l'expliquer après, c'est une conséquence du non-respect des engagements de l'Union européenne ou d'engagements extrêmement discutables, pour rester poli, que l'Union européenne a pris par rapport à des États comme la Libye, et on en arrive à ça. Alors, faut arrêter l'hypocrisie de dire, au niveau des officiels, c'est un scandale. On est tous d'accord que c'est un scandale, mais quand effectivement les décisions qui sont prises et vont à l'encontre de la colère qui est manifestée par ces gens-là et vont à l'encontre de tous les textes qui ont été signés par les États, ça devient extrêmement énervant. Et quand je dis énervant, c'est encore une fois, c'est pour rester poli. Alors pour commencer la rubrique, j'ai récupéré sur France Culture, une chaîne que j'aime bien, quelques minutes expliquées par une journaliste sur ce problème de la Libye, ça a l'avantage d'être extrêmement clair et extrêmement précis.
Après les révélations de CNN sur les exactions commises contre les migrants en Libye, Emmanuel Macron qualifiait hier la vente de migrants africains comme esclaves dans ce pays de crime contre l'humanité. Après une rencontre à l'Élysée avec le président de la Guinée et de l'Union africaine Alpha Condé, il déclarait qu'il fallait aller beaucoup plus loin pour démanteler tous ces réseaux de trafiquants. Mais ce matin sur France Info, Claude Issiard, qui appartient à un collectif contre l'esclavage en Libye, estimait que les responsabilités étaient partagées à la question qui lui était posée.
Les Libyens déjà, mais pas seulement. Pas seulement parce que là en ce moment, je travaille avec un jeune qui a été esclave, du Cameroun, qui a réussi à échapper à cela. Sa sœur est toujours détenue là-bas, elle était en prison, elle a été rachetée par un homme, et c'est une esclave sexuelle maintenant. Et lui me racontait, par exemple, qu'à Tripoli, il y a des Nigérians qui sont armés et qui rachètent des migrants qui ont été incarcérés pour les revendre après. Alors c'est où il arrive à obtenir de l'argent de la part des familles, ou alors il les revend à des marchands d'esclaves qui eux-mêmes vont les revendre après. Donc ça veut dire que tout ça... Et puis, il y a la complicité de l'Union européenne. Lorsque le 3 février dernier, l'Union européenne signe un accord avec la Libye, avec le Niger et d'autres pays pour enrayer ce flux migratoire, en réalité pour stopper les migrants, pour qu'ils soient dans un cul-de-sac, parce que c'est bien ce qu'il se passe, eh bien, vous vous rendez complice, et pour le coup, on peut le dire très clairement, de crimes contre l'humanité, puisque vous savez ce qui se passe en Libye. Vous savez très bien que les populations afro d'Afrique subsaharienne sont maltraitées. Vous savez très bien qu'en faisant cela, vous allez donner un permis de tuer. Et c'est bien ce qui se passe. Donc, les responsabilités sont partagées. Et puis, il y a aussi les chefs d'État africains.
Claude Hissière, donc avec Bruce Toussaint ce matin sur France Info. Marie-Pierre Véraud, bonjour.
Bonjour.
Est-ce qu'on peut vraiment parler de complicité de l'Europe en général et peut-être de la France en particulier dans cette traite d'esclaves en Libye?
Oui, et ce n'est pas du militantisme que de le dire. Il y a une certaine hypocrisie ou amnésie à s'offusquer aujourd'hui de la situation épouvantable que vivent les migrants en Libye, à convoquer d'urgence une réunion du Conseil de sécurité, alors que la France, comme les autres États européens, connaissait parfaitement la situation. Début septembre encore, la présidente internationale de Médecins sans frontières avait mis en garde l'Europe contre le risque de complicité de crimes dans lequel l'a placé sa politique. Mais cela fait bien plus longtemps encore que les ONG documentent cet enfer libyen. Les rackets, les viols, les tortures, les meurtres, les enlèvements contre rançon, le trafic humain, voire le trafic d'organes. La presse s'en fait régulièrement l'écho dans l'indifférence totale des dirigeants. Il y a à peine 2 mois encore, hein, la France, par la voix d'Emmanuel Macron, proposait que des hotspots soient installés en Libye pour faire le tri entre les bons migrants éligibles à l'asile et les mauvais, les migrants économiques. L'idée étant de tarir les traversées à n'importe quel prix. D'ailleurs, c'est toujours ce qui a guidé la politique des États européens en matière de migration. Et c'est le seul volet sur lequel ils soient jamais tombés d'accord, la répression. Derniers actes sur la Libye, plusieurs dizaines de millions d'euros pour les gardes-côtes, alors que l'Europe connaît leur rôle dans le trafic de migrants. L'interdiction des bateaux des ONG qui secourent les migrants en mer pour les au large des côtes libyennes. L'augmentation des moyens de Frontex pour établir une barrière en Méditerranée et renvoyer les migrants vers la Libye, c'est-à-dire vers cet enfer. Alors l'Europe est évidemment co-responsable de ce qu'Emmanuel Macron qualifie de crime contre l'humanité. Sa politique de fermeture et de collaboration avec la Libye pourrait même avoir aggravé la situation des migrants coincés dans ce pays. L'indignation de Paris aujourd'hui, bien sûr, après ce documentaire de CNN est salutaire. Elle rappelle d'ailleurs l'émotion planétaire lors de la publication de la photo de ce petit enfant syrien échoué sur une plage turque. On ne compte plus les déclarations enflammées des dirigeants. À l'époque, quelques mois plus tard, l'Union européenne et la Turquie convenaient d'un accord qui ferme la route vers la Grèce. Résultat aujourd'hui, résultat de cet accord, des milliers de migrants sont abandonnés sur les îles grecques, dans les hotspots, dans une situation dramatique. Les ONG et l'UHCR ont lancé des appels. Il faudra sans doute attendre le prochain documentaire de CNN pour s'en préoccuper. Mais quand on parle d'Union européenne, il faut comprendre les États dont la France, des États qui ont refusé les appels de la Commission européenne à des quotas d'accueil, des États qui ne peuvent plus cacher le décalage entre leurs discours et leurs actes. Si l'on prend la France, par exemple, encore une fois, elle laisse aujourd'hui des mineurs isolés se faire reconduire hors de ses frontières, abandonnés à leur sort. Ce n'est pas en Libye, c'est chez nous, en France.
Merci beaucoup, Marie.
Ça a le mérite effectivement d'être tout à fait clair, ce qui a été dit.
Dommage de ne pas avoir le nom de la journaliste parle si clairement. Moi, tu l'as coupé.
C'est moi qui ai coupé l'enregistrement.
Marie-Pierre, j'ai entendu.
Parce que c'était pendant tout un journal, donc j'ai pris que la séquence qui m'intéressait. Mais bon, effectivement, ça vous pouvez retrouver sur France Culture. Donc ça a le mérite d'être tout à fait clair. Moi, je vais juste compléter très rapidement en vous donnant quelques communiqués d'Amnesty. Je suis remonté dans les mois précédents parce qu'encore une fois, l'Amnesty dénonce la situation, cette situation de pourrissement de l'état des migrants et des réfugiés en Libye depuis des années, quand il y a eu l'accord de passé entre l'Europe et la Turquie qui fermait en fait le passage par la Turquie pour les réfugiés et pour les migrants vers l'Europe. Amnesty International, par la voix d'un de ses responsables, a dit « c'est la pire chose qu'on puisse faire parce que les gens vont se rabattre sur le passage par la Libye ». Ça, c'était en 2015. « Vont se rabattre sur le passage par la Libye et en Libye, ça va être 10 fois pire et les catastrophes vont venir ». On n'a pas de don de divination, simplement on est juste un peu lucide par rapport à ce qui se passe. Et après, c'est extrêmement insupportable d'entendre les responsables pousser des hauts cris alors qu'ils ont tout fait pour qu'on en arrive là. Donc Amnesty a fait des communiqués en juin 2017. Elle a écrit le plan d'action proposé par la Commission européenne est simple. La politique étrangère de l'Union européenne doit désormais permettre d'empêcher réfugiés et migrants d'atteindre les frontières européennes à tout prix, y compris celui des violations des droits humains. Plus de 100 ONG, dont Amnesty International, exhorte les États européens à rejeter ce plan. Avant, il y avait un autre communiqué qui date aussi du mois de juin, toujours d'Amnesty. L'Union européenne s'obstine à renforcer les contrôles frontaliers et la multiplication des retours dans les pays d'origine. Elle ne cherche pas à offrir aux réfugiés et aux migrants la possibilité de se rendre en Europe en toute sécurité. Les États de l'Union européenne ne se gênent pas pour promettre des aides diverses en contrepartie du renforcement des contrôles aux frontières de ces pays. Dans certains cas, ils interviennent directement dans ces pays par le biais de formations ou la fourniture de matériel pour rendre plus efficaces les contrôles. Et les contrôles, effectivement, on arrive à la vente des gens.
Bah là, ce n'est pas des contrôles, c'est qu'on laisse faire n'importe quoi, même si on sait ce qui se passe là-bas.
C'est ça. Un autre, un peu plus ancien, du mois de juillet 2017, le terrible bilan en Méditerranée centrale, on parlait des gens qui meurent en mer, et les violations des droits humains endurées par des milliers de réfugiés et de migrants dans les centres de détention libyens sont clairement liées à la politique défaillante de l'Union européenne, écrit Amnesty International dans un rapport rendu public le 6 juillet 2017. Après, il y a toute une explication pour ce rapport, vous pouvez le trouver en ligne, il est sur le site d'Amnesty. Bon, pour l'instant, il n'a pas été traduit en français, il est en anglais. Mais enfin, ce rapport existe. Et il y en a eu, à ma connaissance, il y en a eu 4 rapports sur la Libye qui vont tous dans le même sens depuis 3 ans. Donc voilà, on va s'arrêter là, mais ça commence à bien faire, effectivement. On finit par perdre patience. Ça commence à bien faire d'entendre des discours des politiques, quels qu'ils soient. C'est pas une question de parti politique, mais quels qu'ils soient, ces gens-là nous disent c'est un crime contre l'humanité, comme le président Macron encore il y a quelques jours. Il a raison de dire que c'est un crime contre l'humanité. Mais enfin, on a tout fait pour en arriver là. Donc il faut qu'on arrête. Il faut effectivement que les gens qui cherchent refuge, pour défendre leur vie ou pour se mettre à l'abri, c'est un droit humain fondamental. Et il faut qu'il y ait des voies de passage sûres entre leur pays et l'Europe. Il n'y a pas d'autre solution.
Et quand ça me rappelle aussi une phrase comme quoi la frontière la plus dangereuse actuellement, c'est la Méditerranée. C'est-à-dire à force de repousser les limites de l'Europe, les gens prennent de plus en plus de risques, mais ils vont continuer à venir.
Bien évidemment.
Et si on peut démonter un petit peu l'histoire de CNN, qui a effectivement fait paraître ce film tellement horrible, eh bien, c'est la réaction des gens par rapport à ce film-là qui a fait bouger les États et qui a fait ressortir. Nous, Amnesty, comme nous dit Didier, ça fait des mois que ça, on le dit.
Des années.
Alors,
ça fait des années qu'on le dit.
Effectivement, ouais, des mois, des années. Bon, tu parles de la situation dernière, on va dire depuis la Turquie, depuis les accords européens avec la Turquie.
Oui.
Et effectivement, les citoyens sont peut-être informés, peut-être pas assez. Écoutez tous, principe actif, ça c'est sûr. Mais il faut vraiment faire des mouvements de foule. Il y a que ça qui fait bouger actuellement. C'est-à-dire la visibilité dans les médias et après, les citoyens qui demandent aux politiques de changer. Parce que là, franchement, ils sont tous prêts à oublier la Libye dans très peu de temps.
C'est clair.
Oui, mais ça me fait penser à quelques années. C'était quand il y a eu l'enfance à la plage aussi, où il y avait plein de gens qui étaient étonnés alors que nous, on parlait depuis longtemps. C'est vrai que ça fait un effet de masse, mais quelques temps après, on a l'impression que tout le monde a oublié. Donc là il ne faut pas que ça fasse pareil. Quoi.
Il faut que les textes de loi changent. Il faut que l'Europe change.
Parce que, autour de moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont surpris alors qu'en fin de compte, ça fait longtemps qu'on en parle de ça.
Une autre question, plan B, c'est à quoi sert l'actualité? Qu'est-ce qu'il y a dans les actualités? Alors, on va
tout
dire
à
la télé, dans les journaux. Voilà. On ne parle pas forcément des choses qui sont pour nous importantes.
Tout à fait. Et quand Élie disait effectivement qu'il faut changer les textes de loi, il faut surtout respecter les textes de loi qui ont été signés par les pays sur les droits fondamentaux. Ce qu'on n'arrête pas de dire à longueur d'émission. Et il faut arrêter de signer des accords, extrêmement malsains.
C'est pour botter en touche et dire mais non, on ne veut surtout pas ça, ces gens au niveau de l'Europe. Ah non, on ne les veut pas. Mais si, les gens qui sont en difficulté, ils ont le droit de venir et on doit les accueillir.
Alors, je vais juste terminer ma petite intervention par rapport à une information que j'ai reçue aujourd'hui. L'Amnesty International France n'est pas restée évidemment indifférente par rapport à cette actualité d'officialisation, entre guillemets, si on peut dire, de l'esclavage en Libye, de la vente d'esclaves. Mais donc, elle est intervenue auprès des instances officielles, auprès de l'Élysée. Et donc, j'ai reçu un petit texte dont je vais vous lire simplement le début. Comme vous l'avez certainement entendu, la France a fortement réagi aux informations faisant état d'esclavage en Libye. Elle a donc décidé de saisir le Conseil de sécurité de l'ONU, dont la présidence est italienne, pour envisager des sanctions à l'égard des trafiquants, soutenir les initiatives en cours de la Cour pénale internationale et des suites qui seront données. Parenthèse personnelle, bonjour l'hypocrisie.
Oui, parce que le hotspot en Libye, C'est pas notre président qui l'avait proposé, alors qu'on sait très bien que c'est un pays qui absolument pas défendre un lieu serein et un lieu où les hommes seraient en sécurité.
Donc, à la suite de ça, Amnesty continue. Ils ont été reçus à l'Élysée vendredi dernier. Donc, ils écrivent « Nous avons réagi par voie de presse à ce comportement de la France sur deux actes. Saluer le travail enclenché de la France en ce qu'elle participe à la lutte contre les violations graves de leurs droits, donc des migrants. Subis par des personnes migrantes et réfugiées, et critiquer l'illusion de la découverte de cette situation en lien avec l'appui porté par la France à une politique européenne et italienne qui ne fait pas grand cas de collaborer avec des trafiquants via les gardes-côtes douteux de l'État libyen ou des groupes armés privés officiant dans le sud du pays. Nous avons été invités vendredi à un rendez-vous à l'Élysée et donc nous avons été très actifs au cours de cette réunion pour dénoncer cette politique inconciliable de la France sur ce sujet, comme évoqué ci-dessus. Voilà, ils ont participé à cette réunion, Outre Amnesty, Human Rights Watch, la Fédération internationale des droits de l'homme, Médecins sans frontières, SOS Méditerranée
et
d'autres.
Qui a le bateau en Méditerranée.
Voilà. Donc encore une fois, vous qui nous écoutez là de l'autre côté des micros, au bout des ondes de la radio, ou qui nous écoutez sur Internet après, sur les podcasts, il faut effectivement qu'on se milite et il n'est plus question quand on entend de telles choses. Voilà. Il n'est plus question de
patience. Oui, ça rappelle, mais ça fait du bien de le dire.
Il n'est plus question de patience par rapport à ça. Il y en a assez des discours à 36 voix et des officiels qui s'offusquent alors qu'après ils font exactement le contraire de ce qu'ils nous ont dit.
Et alors moi je vais faire le côté Claire-Lise et Broïcienne. À Évreux, c'est aussi dramatique pour les mineurs, c'est dramatique pour les femmes qui sont à la rue et les enfants. Bon, Claire-Lise en parlera mieux une prochaine fois, mais voilà, c'est aussi ici qu'il faut se bouger.
Tout à fait. Et on aura l'occasion d'en reparler effectivement dans les émissions parce qu'on a des projets en cours aussi avec d'autres associations locales.
Soyez avec nous.
Voilà. Mais surtout, il faut arrêter de rester indifférent et il faut effectivement s'investir.
Moi, je pense que c'est peut-être le moment où je fasse une petite bonne nouvelle après.
Bah oui, écoute.
Ah, Renan.
Vas-y.
Une bonne nouvelle pour dire que les choses bougent. Ça a mis du temps, mais ça bouge quand même. Justice est enfin rendue. Plus de 20 ans après les faits, l'ancien chef militaire des Serbes de Bosnie, le général Ralko Mladić.
Mladić. On va souffler avant. Il s'appelle Mladić.
Ouais, voilà. Quand tu vois comment c'est écrit, c'est pas comme ça, mais bon. A été condamné pour crimes de droit international, notamment génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre lors du conflit armé de 92 à 1995. Le verdict a été prononcé par le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie à La Haye. Donc c'est quand même une bonne nouvelle.
Bah ça faisait un moment qu'il était en prison et puis voilà.
Voilà. Quelqu'un qui est responsable de la mort de quelques milliers de personnes pendant la guerre en Yougoslavie. Et Amnesty se réjouit que ce criminel effectivement passe a priori le restant de ses jours en prison.
Mais comme on disait tout à l'heure, nous on demande qu'en fin de compte que la loi soit respectée, et ça fait depuis longtemps. Je pense qu'il aurait dû.
Il aurait dû déjà être arrêté depuis longtemps et enfermé depuis longtemps, bien sûr. On va se calmer un peu en écoutant quelques mesures de musique.
Sitting in the tree, was it just a dream? I know, yes, I know. It seems so very real. It seems so real to me. Walk down the street to the heat-whispered trees. I thought I could hear. Somebody call out. It started to rain. Two spirits dancing so strange. Arakawa, Pusse Pusse. Arakawa, Pusse Pusse. Arakawa.
watching myself. Something warm said a code. The spirit dancers unfold.
Donc, de retour sur l'antenne de Principe Actif, c'est donc toujours le groupe Amnesty International d'Evreux pour notre heure d'émission sur la défense des droits humains. On vient d'entendre un disque qui avait été fait en soutien à Amnesty il y a pas mal d'années maintenant. On vient d'entendre le groupe REM, un morceau qui s'appelle, qui est une reprise de John Lennon, qui s'appelle Nine Dream. Voilà. Donc, maintenant, je pense que, après notre colère contre l'hypocrisie de nos dirigeants, dirons-nous, je pense qu'Edith, tu as d'autres informations à vous dire, mais pas du tout en Libye. Par contre, on va partir en Asie.
Voilà, un pays dont on vous a déjà parlé ces derniers mois et dont aussi les médias font écho, hein, le Myanmar, oui. La Birmanie, l'ancienne. Oui. Voilà, en parlant de la situation des Rohingyas. Rohingyas, ce sont des musulmans qu'il a actuellement, il y en a 620 000 qui sont au Bangladesh. Donc, il y a eu un article sur fait par Amnesty qui explique bien comment cette situation a pu se mettre en place. Et Amnesty démontre que les Rohingyas en Birmanie, au Myanmar plutôt, j'aime bien la Birmanie comme nom. Alors, je veux dire
oui,
Myanmar.
C'est plus clair.
Ils sont dans une situation d'apartheid. Alors, apartheid pour les jeunes qui nous écoutent, ça fait penser à quel pays? Allez, mes amis.
Ça fait penser à l'Afrique du Sud.
Alors l'Afrique du Sud, voilà. L'Afrique du Sud,
on est à nouveau dans le groupe.
Non, mais je pense que c'est. J'espère que c'est un mot qui continue à avoir du sens. Mais c'est vrai que c'est une situation pour laquelle nous on a œuvré à un moment. Donc séparation des Noirs, des Blancs, des droits différents, voire pas de droits du tout, et une impossibilité de s'exprimer normalement dans un pays. Donc je vais vous raconter un peu ce qui peut se passer pour les Rohingyas. Alors on va essayer de vous mettre un peu avant les dernières violences de l'armée, c'est-à-dire avant le printemps de 2017. Mmh. Deux ans d'enquête quand même pour essayer de comprendre les mécanismes qui se passent dans la vie des Rohingyas dans l'état d'Arakan. L'Arakan, c'est un état au Myanmar qui est au bord de la mer, à la limite du Bangladesh. Et c'est dans cet état-là que vivent cette minorité musulmane. Ils doivent lutter. Les Rohingyas pour accéder à des soins de santé, d'éducation, voire dans certaines régions pour sortir de leur village. Se déplacer quand on est un Rohingyas. Les Rohingyas qui vivent dans l'état d'Arakan sont fondamentalement isolés du monde extérieur. Leur droit de circuler librement est fortement restreint. Ils sont confinés dans les villages, dans les communes. Ces restrictions sont le fruit d'un réseau complexe de lois nationales, d'ordonnances locales, de politiques mises en œuvre par les représentants de l'État affichant ouvertement un comportement raciste. Une réglementation en vigueur dans l'État d'Arakan précise clairement que les étrangers et les personnes de race bengali, c'est le terme péjoratif désignant les Rohingyas en Birmanie, ont besoin de permis spéciaux pour se rendre de localité à une autre. Pour les Rohingyas, obtenir cette permission d'aller au nord de l'état d'Arakan, je ne parle pas du tout d'aller dans le reste du Myanmar, juste au nord de l'état d'Arakan, il y a de nombreux postes de contrôle, tenus la plupart par des polices des frontières. Cela est une menace constante, car ils y sont régulièrement harcelés, contraints de payer des pots de vin, agressés physiquement ou arrêtés. Alors un témoignage. Il y avait 4 policiers au total. 2 d'entre eux ont frappé les hommes à coups de baguette sur le dos. les épaules et les cuisses. Un autre a giflé une dame 4 ou 5 fois avec la main. Et après, ils l'ont amenée au poste de police. L'équipe d'Amnesty, pendant qu'elle a fait cette enquête, a vu un garde-frontière donner un coup de pied à un Rohingya, à un poste de contrôle, et a recensé au moins un cas d'exécution extrajudiciaire. En effet, les agents de police des frontières ont abattu un homme de 23 ans qui circulait durant les heures de couvre-feu. Durant les violences de 2002, des dizaines de milliers de Rohingyas, de 2012, excusez-moi, ont été chassés des zones urbaines de l'État d'Arakan, en particulier de la capitale. Aujourd'hui, il y a 4000 Rohingyas qui vivent encore dans la ville, dans un quartier ghetto, encerclé de barricades, de barbelés, avec des postes de contrôle tenus par des policiers. S'ils tentent de partir, ils risquent d'être arrêtés, de subir des violences des communautés qui les entourent. Alors donc, là, c'est pour le droit de circuler. Maintenant, je vais vous parler du droit de se soigner. Alors, les hôpitaux, dans l'état d'Araka, c'est pas terrible. Mais pour les Rohingyas, c'est encore plus compliqué. Il y a des obstacles qui mettent leur vie en danger pour accéder aux soins. Ils ne peuvent pas être soignés à l'hôpital de Sweety, la capitale de l'État, qui est le meilleur centre médical, sauf en cas d'extrême urgence. Même alors, ils ont besoin de l'autorisation des autorités de l'État d'Arakan et ils circulent sous escorte, ça sera mieux, policière. Dans le nord de l'État, beaucoup n'ont pas d'autre choix que de se rendre au Bangladesh pour bénéficier des soins médicaux dont ils ont besoin. Un autre témoignage. Je voulais me rendre à l'hôpital de Sweety pour y être soignée, mais c'est interdit. Les employés de l'hôpital m'ont dit que je ne pouvais pas y aller pour ma propre sécurité et que je devais aller me faire soigner au Bangladesh. Cet homme, âgé d'une 50aine d'années, rajoute « Cela représente beaucoup d'argent. Mon frère a plusieurs rizières et des bœufs et il a dû en vendre un certain nombre pour payer le voyage. » J'ai eu de la chance. La plupart des gens ne peuvent pas se payer cela. Alors ils sont condamnés à mourir. Et l'hôpital qui a été visité par un travailleur humanitaire est comparé à un hôpital-prison, surtout les petits centres médicaux en dehors de la capitale. Plusieurs Rohingyas ont raconté qu'ils ont dû verser des pots de vin à des employés de l'hôpital et que des policiers, pour pouvoir appeler leurs proches ou acheter de la nourriture... Excusez-moi, la feuille s'est échappée.
Acheter de la nourriture.
Il y a un courant d'air dans le studio.
Ou aller vers l'extérieur. D'autres préfèrent éviter totalement les hôpitaux, craignant les violations de la part des médecins, des infirmiers, ou persuadés qu'ils ne seront pas du tout soignés. Priver les Rohingyas d'accès aux soins médicaux est abject. Des femmes nous ont confié qu'elles préféraient accoucher chez elles dans des conditions peu hygiéniques plutôt que de risquer de subir des violations ou de se faire torquer de l'argent à l'hôpital. Éducation. Depuis 2012, les autorités du Myanmar ont durci les restrictions à l'accès à l'éducation des Rohingyas. Les enfants Rohingyas n'ont plus le droit d'être scolarisés dans des écoles gouvernementales, auparavant mixtes, et les enseignants du gouvernement refusent souvent de se rendre dans les zones musulmanes. Globalement, les Rohingyas n'ont pas accès à l'enseignement supérieur et beaucoup ont exprimé un sentiment immense d'espoir pour leur avenir. En outre, le durcissement des restrictions quant au déplacement affecte la capacité des Rohingyas à gagner leur vie ou à porter assez de nourriture sur la table. Ceux qui vendent des produits sont tenus à l'écart des routes de commerce et des marchés, tandis qu'on empêche souvent les paysans de travailler dans leurs champs. La malnutrition et la pauvreté deviennent la norme parmi les Rohingyas dans les zones touchées. Une situation qui aggrave le quasi-blocage de l'aide humanitaire. Un Rohingyas âgé de 25 ans a témoigné. C'est très difficile en ce moment parce que nous n'avons pas assez à manger. Nous serions mieux en cellule ou en prison parce qu'au moins nous aurions régulièrement de quoi manger. De toute façon, ici, c'est comme si nous vivions en prison. Par ailleurs, en raison de l'interdiction de rassemblement de plus de 4 personnes, qui s'applique surtout aux régions à majorité musulmane, les Rohingyas, pour l'immense majorité des musulmans, n'ont pas le droit de pratiquer leur culte ensemble. Les autorités ont aussi fermé les mosquées, laissant les lieux de culte musulmans se dégrader. Voilà le quotidien des Rohingyas. Alors, ce qui manque, c'est effectivement... Enfin, ça vient des lois qui ont été votées au niveau du Myanmar. Ces lois viennent étayer la discrimination dont ils sont victimes. Au cœur de ce système, une loi sur la citoyenneté de 1982 qui prive les Rohingyas de la citoyenneté sur la base de leur origine ethnique. Alors, juste pour un renseignement, les Rohingyas, ils sont en Birmanie depuis des fois la fin du 19e siècle. Hein. Oui. C'est pas du tout une arrivée...
Non, c'est pas du tout récent. Non.
Alors, sur cette base, les autorités mènent une campagne délibérée visant à retirer aux Rohingyas les formes même limitées d'identification en leur possession. Alors là, c'est la cerise sur le gâteau. Maintenant, il est très facile pour les Rohingyas de faire enregistrer leur nouveau-né. Forcément, il n'existe pas. Sur la liste des familles, bien souvent, le seul justificatif de domicile au Myanmar, c'est effectivement cette liste des familles. Donc là, même aussi, l'État essaye d'empêcher les Rohingyas d'exister.
Quand on n'a pas d'identité, on n'a pas de droit. Là. Donc voilà.
Et si jamais il y a un recensement qui se situe une fois par an, mais si on n'est pas chez soi, on risque d'être supprimé des registres.
Ben oui. C'est une façon d'éliminer le problème.
Tout à fait, voilà, c'est
beaucoup plus simple.
Et d'éliminer
les gens en même temps.
Voilà. Alors, ce qui s'est passé le week-end dernier, c'est qu'il y a eu un accord entre le Bangladesh, puisqu'il y a quand même 620 000 Rohingyas qui sont partis, parce qu'en plus, l'armée leur a tiré dessus, ouais, il y a eu des massacres
village,
au niveau des villages. Mmh. Donc, entre les autorités birmanes et Bangladesh... Alors, la Birmanie et le Bangladesh ont signé ce jeudi un accord ouvrant héroïquement la porte au rapatriement de centaines de milliers de musulmans. Ce document prévoit le retour des réfugiés qui devrait débuter dans un délai de 2 mois. Alors, le ministre des Myanmar a dit, ben, écoutez, ils peuvent revenir, mais il va falloir qu'ils aient des papiers. Alors, si vous avez un peu écouté ce qui se passe actuellement...
C'est une façon de les empêcher de revenir, en fait.
Voilà. Donc, on est très inquiets. Là, effectivement, même les Nations Unies ou même les États-Unis ont essayé de faire pression en parlant de nettoyage ethnique. Bon, Amnesty parle de régime d'apartheid et je pense que cela se démontre par rapport à la condition de vie. Mais voilà, qu'est-ce qui va se passer après? On va être toujours vigilants, on va vous tenir au courant, mais ce peuple est vraiment mis dans un étau de non-loi assez terrible.
Il faut quand même rappeler aussi qu'une des dirigeantes actuelles de la Birmanie, ou du Myanmar, c'est quand même quelqu'un qu'on a défendu pendant des années, qui s'appelle Aung San Suu Kyi, et qui est... C'est ce que tu voulais dire.
Voilà, pas... oui, parce que ce que je veux dire, je ne la dédouane absolument pas parce que c'est vrai
c'est
qu'elle.
C'est pas grave, on fera la conclusion.
Ça nous a fait très mal de ne pas l'avoir se positionner.
Je suis d'accord.
Mais effectivement, ce rôle qu'elle a dans le gouvernement n'a aucune autorité sur l'armée. Et d'ores et déjà, les réfugiés ne pourront rentrer que dans les lois de la citoyenneté et ça, c'est l'armée qui décide.
Oui, mais enfin,
elle peut parler quand même.
Alors là, je pense que là, effectivement,
c'est sa position de parole qu'elle a admise, je ne sais pas combien de temps avant de réagir.
Et puis on avait parlé dans une précédente émission, on avait lu un communiqué d'Amnesty, c'était le mois dernier, je crois, un communiqué d'Amnesty qui était quand même très, 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 très dur, très, très lucide par rapport à Aung San Suu Kyi, et en disant que de toute façon, elle avait quand même un petit peu vite oublié, effectivement, des choses qu'elle avait défendues avant, et que, par exemple, elle avait considéré que les Rohingyas qui étaient expulsés ou qui partaient de Birmanie étaient des terroristes, quand on sait qu'il y avait énormément de femmes et d'enfants parmi eux. Traiter des femmes et des enfants de terroristes, je pense que quand elle était elle-même sujette aux persécutions de l'État birman, elle aurait tenu un tout autre discours.
Ça, on est tout à fait d'accord.
Mais ça, c'est notre débat, c'est malheureux. C'est...
Mais bon, on ne regrette pas de l'avoir défendu quand même.
Ah non,
un moment donné, voilà, c'était un choix et c'était un travail à faire avec elle. Là, effectivement, et je pense qu'il y a en plus une vague de fond d'intolérance au niveau des bouddhistes birmans. Et ça, c'est
aussi compliqué.
Très compliqué, voilà. Puisque là, actuellement, juste une anecdote en arrivant, j'entendais le pape est actuellement en Birmanie. Et la consigne pour lui, c'était absolument de ne pas prononcer le mot Rohingyas, qui est une injure suprême au niveau birman.
Ben oui.
Donc c'est hyper impensable pour nous des situations comme ça. Donc il a dû parler, alors vous allez suivre l'actualité, de minorité, ouais, de droit au peuple.
Il ne devrait pas accepter parce qu'on ne lui dit de pas lire, mais il a le droit de dire ce qu'il veut. Quoi, il peut
alors je ne sais pas plus, bah, ça, c'était rapidement...
Quelque part, on lui met le couteau sous la gorge, c'est ce côté qui me dérange un peu. Quand, ça me fait penser. Moi, ça me dérange un peu. Quand,
bah voilà. À quel moment on peut dire et qu'est-ce qu'on peut faire pour faire bouger ce peuple et les lois surtout.
C'est ce que ça m'a fait penser à ce que j'ai dit dans l'introduction de l'émission de ce soir. Hein, quand même, il faut peut-être un jour effectivement avoir un petit peu de courage et arrêter les hypocrisies et les doubles langages, y compris Monsieur le Pape.
Oui, tout à fait. Parce
alors, voilà, dans les gens
qui. Si lui montre pas l'exemple.
Les gens qui se bougent, il y a des gens dont Omar Sy, j'ai pas retenu les autres, qui sont actuellement au Bangladesh et qui essayent de faire bouger au niveau des réseaux sociaux.
Oui, j'entends
voilà,
pas.
Donc, mettons en balance toutes ces personnes.
Le petit peu de positif, il faut quand même le dire.
Bon, je crois qu'il y a Renan qui voulait aussi vous pousser un coup de gueule. C'est le jour des coups de gueule.
Allez, coup de gueule.
À propos de l'information, il n'y a parlé il n'y a pas longtemps, non ?
Oui, tout à fait, mais ne lâche pas le mot.
Bah non, mais vas-y, vas-y. J'ai rien dit, c'est juste dire que vous voulez piquer.
Alors,
et moi, j'ai un coup de gueule.
Et moi, j'ai un coup de gueule.
Réfléchissez, qu'est-ce qu'il aime bien, Renan ? On attend.
Alors, moi, c'est un coup de gueule. Dès qu'un truc qui est autour des armes, moi, c'est mon. Donc, alors là, on était en Birmanie. On était en Birmanie, on a fait la Libye, et là, on est à 70 km d'Evreux, comme là, c'est Paris.
Alors, tu voulais aller à la capitale.
Et à Paris, qu'est-ce qui se passe à Paris? Ben, je vais vous dire, il y a des chercheurs d'Amnesty International qui ont découvert des équipements de torture illégaux, notamment des matraques à pointe, des fourches anti-émeutes à pointe envoyant des décharges électriques, des gilets envoyant des décharges électriques et de lourdes entraves pour les pieds vendues par des entreprises chinoises. Sur un salon qui s'appelle le Millipol, un salon à Paris, qui a un salon, enfin, compte pour les équipements militaires de la police, qui s'est tenu dans cette semaine à Paris.
D'accord.
Donc, des chercheurs d'Amnesty, les gens qui étaient par là, ils ont vu qu'ils vendaient ce genre de produits, et tout en sachant que l'importation et l'exportation d'équipements de torture sont interdites dans l'Union européenne depuis 2006. Et en 2016, l'Union européenne a également interdit la promotion et l'exposition de ces équipements dans les salons professionnels. Certains de ces articles découverts par Amnesty International figuraient dans des catalogues présentés à Minipol. On va
des
faire son marché, c'est Noël, mais c'est à Paris comme. Et d'autres étaient exposés au salon. Ah, mais avec carrément des. Il n'y a pas que le catalogue, ils ont exposé. Et l'on se demande comment ils ont pu être importés dans l'Union européenne. Et il faut savoir que des instruments de torture effrayants, donc, comme j'ai dit, tels que des matraques, se sont retrouvés à Paris. Alors pourquoi pourquoi en trouve-t-on la vente à Paris aujourd'hui à des carrés Ara Marcel Naval? Je ne sais pas si vous savez qui c'est.
Non. Je ne sais pas.
Mais tu vas nous le dire.
Ah, mais je suis étonné, Didier, ça, je ne sais pas qui
non,
c'est.
Non, je ne sais pas.
C'est la conseillère sur le contrôle des armes à Amnesty International.
Ah, bah, je ne connais pas tout le monde.
Voilà. Donc, en ne faisant pas piquer la législation, la France permet aux tortionnaires de venir faire leur marché Millipol. Et que Millipol est le premier véritable test grandeur nature pour la nouvelle réglementation de l'Union européenne sur les instruments de torture. Il est très inquiétant de constater que ces règles sont déjà bafouées moins d'un an après leur entrée en vigueur. Parce qu'un traité qui a été donc signé en 2016, et actuellement on voit sur des salons à Paris des instruments qui sont vendus. Donc en septembre, l'Alliance pour les échanges commerciaux sans instruments de torture a été lancée sous la houlette de l'Union européenne par la commissaire européenne au commerce, Cecilia Malmström, je suppose qu'elle doit être du Nord. Là.
Ah bah, vu son nom.
Ouais. Oh, comment tu parles.
En tout cas, elle n'est pas de Bretagne.
Ouais. Moi, je m'en fous, je suis du Sud.
Et tout le monde a le droit de voyager partout et avoir des noms différents. Sûr.
Qui c'est cette brave dame?
Commissaire.
La commissaire européenne au commerce. Et lors de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Tu m'as... Je viens de le dire. Il ne faut pas me perturber quand je parle. Et donc, cette alliance dont fait partie la France vise notamment à promouvoir la législation lancée par l'Union européenne. L'Union européenne a ouvert la voie en ce qui concerne l'interdiction des équipements de torture, mais nous avons vu aujourd'hui des instruments de torture fièrement exposés au cœur de Paris. Si les États de l'Union européenne ne mettent pas correctement en œuvre cette législation au sein même de l'Union européenne, comment peuvent-ils persuader d'autres pays de mettre fin à cet atroce commerce? A déclaré donc à Marcel Naval. Donc, c'est vrai que. Donc nous déjà, on est en train de parler d'autres pays, mais déjà même chez nous, on a ça, des trucs comme ça. C'est...
Ah, surtout les montrer comme ça. Mais le problème, c'est qu'ils existent. Ça.
Moi, je suis tombé, excusez-moi l'expression, je suis tombé sous le cul quand j'ai entendu vu ça, parce que je ne comprends pas comment il n'y a pas, dans un salon, normalement.
Bah, puis le problème, oui,
et moi qui fais des salons, ça m'est arrivé de faire des salons, on est obligé de montrer pas de manche pour savoir qu'est-ce qu'on met sur le salon.
Tu fais des salons de vente d'armes.
Mais non, justement. Mais pour un salon n'importe quoi, il faut que tu n'as je ne sais pas combien de pages à remplir pour dire ce que tu vas mettre dessus le stand.
Bah, peut-être qu'ils avaient donné des jolis noms à tout ça.
Ah ouais. Ou alors ils avaient des passe-droits, je pense.
Enfin, ce qu'il faut aussi remarquer par rapport à cette grosse anomalie qui a été relevée par Amnesty, c'est que, en fait, Amnesty a fait en allant faire ses contrôles dans le cadre du salon, là, a fait le travail de l'État français qui ne l'avait pas fait. Donc encore une fois, c'est ce qu'on disait au début. Hein, il y a les discours, il y a les accords qui sont signés. Non, personne ne va vendre ce genre de choses.
Oui, parce que ça serait. T'as raison.
Et en fait, après, personne ne contrôle.
Didier, voilà. Est-ce que ça aurait été rigolo de savoir s'il n'y avait pas eu effectivement les gens d'Amnesty, peut-être d'autres ONG qui surveillent. Est-ce que ces petites voilà, il y aura peut-être des gens qui auraient fait leur marché là-bas, qui auraient été acheter leurs petits instruments de torture tranquillou.
Et en plus, mais ça dure depuis combien de temps, quoi? Il y a ça tous les ans, ce salon-là, alors que ce que.
Alors bien sûr,
Et dans ce salon-là, il y avait aussi les drones à un moment. Donc il y a eu des échos comme ça. C'est toujours un peu borderline quand même, parce que les armes et les moyens de
forcément.
Répression.
Forcément. Mais enfin bon, là, il y a quand même des armes qui sont explicitement interdites
et qu'on retrouve quand même.
C'est quel pays l'origine?
C'est la Chine.
La Chine, voilà, ça donne aussi.
Non, mais c'est des armes de torture, quoi. Ouais, quelqu'un qui vient en France, à un salon, je ne reviens pas. Ouais, putain, j'ai acheté un truc pour torturer mon voisin, quoi.
Alors, d'après ce que j'ai vu aussi, les organisateurs ont dit à Amnesty qu'ils ne comprenaient pas bien comment ils avaient pu amener ce genre de matériel et que toutes les mesures étaient prises pour que ça disparaisse dans les meilleurs délais. Sauf que c'était trop tard et que c'était leur boulot de faire ça avant.
C'est ce que je disais tout à l'heure, donc il n'y a pas le contrôle qui est fait.
Surveiller les entreprises, parce que malheureusement, c'est pas forcément un secteur pour lequel j'ai beaucoup d'amitié, on va dire, mais on pourrait imaginer une entreprise qui montre que des belles choses sur la table et qui est ça sous la table, parce qu'il y a aussi des contacts dans ces salons qui ne sont pas forcément contacts.
C'était même pas sous la table, c'était carrément des catalogues.
C'est de s'imaginer que ça pouvait passer. Ça, c'est
aussi... Je ne sais pas si c'est passé, moi je ne regarde pas trop la télé, je ne vois même plus du tout la télé. Je ne sais pas si c'est passé aux informations.
Je ne l'ai pas vu. Moi, je l'ai vu sur le site d'Amnesty, mais
la foi est tronquée un peu. Voilà, on ne vous parle pas de tout.
C'est pas normal, ça.
On parle déjà très peu de ce salon au niveau des informations. Bon, on va peut-être écouter quelques... Parce qu'on a
une information importante à vous donner après. Grosse information.
Donc, juste quelques secondes de musique et on se retrouve.
Oh, un peu plus que quelques secondes, quand même.
Voilà, on a écourté le morceau. Hein. C'était Hot Tuna, un vieux groupe de rock américain, un morceau que j'aime bien, que j'ai retrouvé chez moi, qui s'appelle Talking About You. Voilà, donc on a une grosse actualité.
Amnesty. Alors, décembre, ça vous fait penser à quoi, là, les fidèles?
Noël.
Eh ben non, avant Noël, qu'est-ce que fait Amnesty?
Avant, il faisait un marathon, maintenant, c'est plus un marathon.
Ça s'appelle les 10 jours pour signer.
C'est-à-dire qu'on veut le maximum de signatures pendant 10 jours pour des personnes défenseurs de droits qui en ont besoin.
Voilà, exactement. Ça dure 10 jours sur 10 cas.
Et si je ne me trompe pas, on sera présent à Évreux.
On va être présent à Évreux. Mais on va juste le dire après. Parce qu'on
mais tu peux le dire avant.
Voilà. Écoutez, le 9, oui, vous venez nous voir.
Voilà, nous serons... On aura un stand devant la boutique d'Artisans du Monde, rue Place du Général de Gaulle, juste à côté
place
de la mairie.
Place de la mairie.
On y sera toute la journée.
Et on pourra signer...
Donc, le samedi 9. Le samedi 9, toute
la
journée.
Alors, pour qui allons-nous signer cette année, Didier ?
Eh bien, pour 10 cas de défenseurs des droits humains, comme j'ai déjà dit. Mais il y en a 3 qu'on va déjà vous passer sous forme de petits clips, et après, on vous parlera des autres.
Après, c'est nos qui causons.
Voilà.
C'est l'histoire d'Albert Woodfox, un militant des droits civiques qui, après un procès inéquitable et 43 ans de détention à l'isolement, a enfin été libéré grâce à une mobilisation internationale. Mais c'est aussi Mahadine, Anan, Taner, Sakris et encore bien d'autres dont les droits sont violés et qui attendent que leur histoire aussi se finisse bien. Pour que toutes les histoires se terminent bien, nous avons besoin de vous. Je suis Sophia Aram et je souhaite les aider à garder espoir. Comme moi, agissez pendant les 10 jours pour signer sur amnesty.fr. Ce matin de juillet 2013, Anan Badreddine regarde son mari s'éloigner. Il part manifester. C'est la dernière fois qu'elle le verra. Anan passera des mois à sa recherche. En vain. En Égypte, chaque jour, en moyenne, 3 à 4 personnes arrêtées disparaissent. Parce qu'Anan n'a pas voulu renoncer à rechercher son mari, aujourd'hui c'est elle qui est emprisonnée. Elle est accusée d'appartenir à une organisation interdite et risque au moins 5 ans de prison. Je suis Sophia Aram et comme moi, agissez pendant les 10 jours pour signer sur amnesty.fr. Son vrai nom est Tajadine Mahamat Babouri. Son pseudo de cybermilitant, c'est Mahadine. En septembre 2016, Mahadine a mis en ligne sur les réseaux sociaux des vidéos critiquant la corruption du gouvernement de son pays, le Tchad. Simple liberté d'expression. Quelques jours plus tard, il est enlevé par des hommes de l'Agence nationale de sécurité. Emprisonné depuis plus d'un an, Mahadine est maltraité, frappé, torturé et risque la prison à perpétuité. Simplement pour avoir voulu s'exprimer. Je suis Sophia Aram et comme moi, agissez pendant les 10 jours pour signer sur amnesty.fr.
Voilà, donc vous avez entendu par la voix de Sophia Aram, donc, qui participe à la campagne et qui a prêté sa voix pour présenter certains cas, deux de ces 10 cas. Donc on va vous parler rapidement des 8 autres qui vont être défendus donc, pendant toute la semaine prochaine. On vous le redit encore une fois, 10 jours pour signer, vous pouvez signer en ligne sur amnesty.fr et aussi venir nous voir le samedi 9. Et le samedi 9, donc en face de la boutique d'Artisans du Monde. Alors, parmi les cas dont on n'a pas parlé, il y a un autre cas qui pour défendre Farid Al-Astra et Issa Amro. Ce sont deux Palestiniens. Donc ce sont des militants non violents opposés à la colonisation israélienne. Fondateurs de l'ONG Youth Against Settlements à Hébron, ville de Cisjordanie occupée, Issa encourage les jeunes Palestiniens à lutter pacifiquement contre l'occupation. Arrêté à maintes reprises, ce trentenaire est régulièrement harcelé et menacé par les autorités israéliennes. Tout comme Farid, son avocat et compagnon de lutte, en février 2016, les deux militants ont participé à une manifestation non violente à Hébron pour dénoncer la fermeture aux Palestiniens de la rue Chouada, autrefois artère commerçante. Poursuivis devant un tribunal militaire israélien, Farid et Issa font l'objet d'accusations dénuées de fondement dont l'objectif est d'entraver leurs activités de défense des droits humains. Donc on demande aux autorités israéliennes d'abandonner immédiatement toutes les charges retenues contre Farid et Issa. Voilà.
Alors,
ensuite, c'est Edith qui va vous dire la suite.
Sakris Kupila. Nous sommes en Finlande, en lutte pour obtenir le droit d'être lui-même. Sakris Kupila, 21 ans, étudiant en médecine, s'est toujours perçu comme un homme. Pourtant, sur ses papiers, ils le disent de sexe féminin. Dès l'adolescence, il s'est rendu compte que le sexe assigné à sa naissance n'exprimait pas qui il était. Il s'est alors choisi un prénom masculin. Cependant, la législation finlandaise ne permet pas de porter un prénom qui ne corresponde pas à son sexe. Sakris a dû accepter d'être diagnostiqué comme présentant des troubles mentaux. Pour changer de sexe à l'état civil dans ce pays, il faut être reconnu comme ayant des troubles mentaux, mais aussi se faire stériliser. Sakris a refusé ce traitement humiliant. En dépit des tentatives d'intimidation, il poursuit sa lutte pour que la loi sur la reconnaissance du genre soit modifiée.
Et c'est Ronan qui va vous parler du troisième cas.
Et moi, c'est en Jamaïque. Jack Elliot Jackson. Empêcher la police de bénéficier de l'impunité. Shakela Jackson lutte pour établir la vérité sur la mort de son frère, Nakir, et pour ceux qui l'ont tué soient traduits en justice. Le 20 janvier 2014, Nakia a été abattu dans le petit restaurant de Kingston où il travaillait. Les investigations menées par la police des polices ont conduit à l'inculpation d'un policier en juillet 2016. Mais un témoin ayant renoncé à se présenter au tribunal, l'enquête préliminaire a été abandonnée. Depuis, la famille de Nakia est la cible de manœuvres d'intimidation de la part des forces de l'ordre. Shakela refuse de céder. En Jamaïque, au cours des 10 dernières années, 2000 homicides ont été commis par des policiers sur des jeunes hommes, souvent d'origine modeste.
Voilà, donc on demande de protéger Shakela et à toutes les
et de rendre
toutes les familles des victimes du harcèlement policier.
Celles qui ont été tuées.
Voilà. Le cas suivant.
Didier.
On part au Bangladesh, continue à voyager. Et c'est pour défendre Yulaz Manan qui a été, enfin pour le défendre, pour réclamer justice parce qu'il a été tué à coups de machette.
Le pauvre.
Pour avoir défendu les droits des personnes LGBT, c'est-à-dire les droits des homosexuels et autres transgenres. Yulaz Manan était un éminent défenseur des droits des minorités sexuelles. Le 25 avril 2016, de soi-disant coursiers ont fait irruption dans son appartement à Dhaka. Sous les yeux de sa mère âgée de 75 ans, Xulas, et un collaborateur qui se trouvait avec lui ont été tués à coups de machette. En 2014, il avait cofondé le seul magazine bangladais consacré aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres. Une entreprise à risque dans un pays où les relations intimes entre personnes de même sexe peuvent être punies par la prison. Malgré des éléments de preuve, en particulier des déclarations de témoins et des images de vidéosurveillance, personne n'a été inculpé. Ce double crime vient s'ajouter à d'autres commis contre les journalistes ou les blogueurs et souvent resté impuni. Donc on va demander aux autorités du Bangladesh d'enquêter sur le meurtre de Xulaz Manan et de son collaborateur et de traduire en justice les auteurs. Voilà. Ensuite, Edith.
Moi, je vais au Honduras par rapport aux membres du MILPA qui risquent leur vie pour défendre leur terre. Les membres du mouvement indépendant autochtone L'Encia de la Paz, MILPA, lutte pour les droits fonciers au Honduras. Confrontés aux intérêts des compagnies minières et hydroélectriques, ces militants paient cher la défense de leurs terres, rivières et forêts. Avec le Nicaragua, le Honduras détient la triste palme du plus grand nombre d'assassinats des défenseurs de l'environnement par habitant sur la décennie écoulée. En 2015, Ania Myriam Romero, activiste du MILPA, enceinte de 6 mois, était passée à tabac par des hommes armés. En 2016, son collègue Martin Gomez recevait des menaces de mort. La même année, Berta Caceres, militante d'une organisation partenaire du MILPA, était abattue par un commando. La plupart de ces crimes demeurent impunis. Demandez aux autorités du Honduras de reconnaître le travail du MILPA et de garantir la sécurité de ses membres.
Alors moi, là, je vais à Madagascar. Kovis Razabi Mala, je l'ai appelé Kovis.
Oui, vous pouvez l'appeler Kovis, c'est plus simple. Les noms malgaches sont un peu compliqués.
Tout à fait. Donc, condamné pour son combat contre le trafic de bois de rose. Kovis lutte contre le trafic de bois de rose qui sévit sur l'île de Madagascar. Son engagement a valu à ce père de 2 jeunes enfants des menaces de mort et sa maison a été incendiée en 2009. Le commerce du bois de rose est soumis à un embargo international. Mais un juteux marché noir, principalement à destination de la Chine, encore eux, ça se moquera j'autre. non, c'est pour ce salon tout à l'heure.
Oui.
Rapporte des milliards de dollars. De son côté, l'État malgache, en pleine déliquescence, s'avère incapable de lutter contre les trafiquants et envoie au contraire des défenseurs de l'environnement en prison. Après 10 mois passés en détention préventive, Kovis a été condamné le 17 juillet 2017 à 5 ans d'emprisonnement avec sursis sur la base d'accusations forgées de toutes pièces. Il risque à tout moment l'incarcération. Donc on demande au gouverneur de Madagascar d'annuler immédiatement la condamnation de Kovis.
Voilà, et bien,
puisque
Renan vous parlait de la Chine, et bien on va reparler de la Chine. Décidément, on parle beaucoup de la Chine ce soir. Donc le cas suivant, ça se passe en Chine. Et c'est pour défendre Ni Yulan, harcelée depuis 20 ans parce qu'elle se bat contre les expulsions forcées. Ni Yulan se mobilise en faveur des personnes expulsées de leur logement. En représailles, il est l'objet d'un acharnement policier et judiciaire intense. Cette quinquagénaire, ancienne avocate, a soutenu des dizaines de personnes expropriées au profit de lucratifs projets de construction. Sa maison, comme celle de milliers d'autres Chinois, a été détruite lors des préparatifs des Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Arrêtée à plusieurs reprises, la militante a été frappée si violemment en prison qu'elle se déplace désormais en fauteuil roulant. En avril 2017, des hommes l'ont chassée de l'appartement qu'elle louait avec son mari et sa fille. Sa famille vit dans un hébergement temporaire, surveillé en permanence par la police. Donc on demande évidemment aux autorités chinoises d'arrêter le harcèlement et l'intimidation de Niluyan et de réaliser une enquête approfondie. Et pour le dernier cas...
Alors moi je vais terminer avec la Turquie, donc un cas dont on vous a déjà parlé. Le président d'Amnesty International et d'autres défenseurs persécutés pour avoir défendu les droits humains. Donc Taner Kılıç, président d'Amnesty, était arrêté le 6 juin dernier à son domicile. Un mois plus tard, 10 autres défenseurs des droits humains, dont Idil Eser, la directrice d'Amnesty, alors là, on sait qu'elle a été libérée maintenant.
Sous caution, voilà.
A été arrêtée par les autorités turques. Grâce à une mobilisation publique, les 10 d'Istanbul ont été libérés sous caution le 25 octobre, donc la directrice. Ils attendent leur procès, mais pas Taner. Ils risquent tous 15 ans de prison à l'issue d'un procès politique, des accusations absurdes et infondées et des liens avec des organisations terroristes, sur des liens avec des organisations terroristes. Donc depuis la tentative d'État de juillet 2016, plus de 150 000 personnes font l'objet de poursuites judiciaires en Turquie. La répression lancée par les autorités turques contre la société civile se poursuit sans faiblir. Que la société arrête Turc arrête les persécutions contre les défenseurs des droits humains.
Voilà, donc si ce cas vous interpelle, et je suis persuadé que c'est le cas, donc n'hésitez pas à venir le samedi 9 devant la boutique d'Artisans du Monde sur le stand de signature dans le cadre de cette campagne. Et ça se passe à Évreux.
Et alors, un petit plus, le 6 décembre à Paris, Auditorium du Monde, il y a trois défenseurs dont on vient vous parler, Clovis, le malgache, Issa et Farid, les Palestiniens, qui seront présents. Et on peut voir ça, j'ai vu ça sur la chaîne YouTube du Monde, pour ceux qui n'iront pas à Paris.
Et avant que Roland ne nous coupe le micro, parce qu'on arrive au terme de l'émission, juste une information pour vous dire que si vous êtes au lycée...
Aristide Briand
à Évreux, et si vous êtes au lycée des Portes de Normandie à Verneuil, parce qu'on est diffusé aussi à Verneuil, on est rediffusé là-bas, il faut venir signer, puisque les antennes jeunes de ces deux lycées font la campagne 10 jours pour signer. Donc tous les jours devant le self, vous aurez la possibilité de signer ces pétitions. Merci aux antennes jeunes d'Aristide Briand et du lycée Portes de Normandie. Et puis, dernière petite information, le jeudi 17, nos amis d'Amnesty Louviers seront présents pour la soirée avec la scène nationale Évreux-Louviers, le Tangram maintenant, sur la pièce « Les légendes de la forêt viennoise ». C'est une pièce qui parle des dangers du fascisme en termes de menaces des droits humains.
Une table de presse et sûrement des signatures aussi là-bas.
Et donc, voilà. Je pense que c'est le moment de se dire...
On va se dire au revoir et se retrouve le mardi 12 décembre à 19h en direct.
Allez, bonne soirée à tous et on compte sur vous pour venir nous voir le 9 décembre.
Et on laisse la place au laboratoire.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er.